c'est Jacques, avec vous sur CFM Radio jusqu'à la demi pour le magazine d'actualité locale consacré toute cette semaine à la 51e édition du Festival de Cordes sur Ciel. Clap de fin ce vendredi pour cette manifestation qui est dédiée aux musiques de chambre, avec tout à l'heure à 18h à la chapelle du Saint Crucifix de Cordes, le violoniste russe Aylen Prichine qui est considéré actuellement comme l'un des plus doués et polyvalents de sa génération. Il interprétera des sonates de Prokofiev, de Weinberg ainsi que de Schnittke. À 20h30 au château de Mérague à Castelnau de Montmirail, de la musique, du théâtre, du cinéma et du vin autour de l'histoire du soldat, une œuvre majeure d'Igor Stravinsky qui sera jouée par l'ensemble Attaïr et incarnée par Mathilde Le Carpentier qui est avec nous dans ce magazine. Mathilde, bonjour.
Bonjour.
Alors vous serez la récitante et la comédienne hein, sur le plateau et vous serez accompagnée en musique par l'ensemble Attaïr, un septuor qui est représenté ici par Thomas Quinquennel, bassoniste de son état. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors, tous les deux, bienvenue déjà à Cordes sur Ciel. Qui est déjà venu à Cordes? Aucun des deux.
Moi, oui, petite fille.
Ah oui, en balade avec la famille.
Exactement.
Ah, et là tu reviens en tant que comédienne, en tant qu'artiste pour cette 51e édition du Festival de Cordes. Alors déjà, je voudrais qu'on résume un peu l'histoire du soldat, cette œuvre d'Igor Stravinsky. Qui s'y colle?
Moi.
Mathilde, oui.
L'histoire du soldat, c'est l'histoire d'un soldat qui rentre chez lui et qui, sur son chemin, croise le diable. Et donc, en fait, c'est une espèce de Faust.
D'accord.
Il va vendre ou échanger son violon, qui est en fait son âme. Et donc après, il va se passer des choses.
D'accord. Ah ben c'est un peu une, je vais dire une légende qui est reprise finalement dans plein de cultures. Les bluesmen vont parler aussi de ça, hein, des bluesmen qui ont vendu leur âme oui, au diable. Donc c'est un peu les mêmes thématiques, les mêmes problématiques qui sont traitées ici. J'imagine qu'il y a aussi des histoires d'amour, des trucs comme ça dans l'histoire du soldat.
Il y a une princesse.
Ah, il y a une princesse. Bon, ben c'est beau. C'est beau. Michel Van Zelle, qui est cinéaste et réalisateur, et dont un des films sera projeté en marge de votre concert, hein, tout à l'heure, un film documentaire qui retrace cette création de Stravinsky. Il nous disait hier à ce micro que c'est une œuvre qui marque un tournant un peu dans la carrière d'Igor Stravinsky. Toi, Thomas, en tant que musicien, qu'est-ce que tu trouves de particulier dans cette œuvre-là, l'histoire du soldat?
Ben, ce qu'il y a de très particulier, déjà, c'est la période à laquelle il a composé la pièce, parce qu'il a composé ça quand il était exilé en Suisse, pendant la Première Guerre mondiale. Et il a un peu... ce qui est particulier, c'est que... À cette époque, particulièrement dans la manière d'écrire la musique, on écrivait pour un effectif dont le compositeur avait décidé à l'avance pour lequel il allait écrire. Enfin, souvent, l'orchestre, il disait « Ah bah tiens, je vais mettre tant de violons, tant de... » Enfin, oui, c'était assez précis. Mm-hmm. Et là, pour le coup, Stravinsky, comme c'était la guerre, il a pris un peu les musiciens qu'il avait sous la main.
D'accord.
Donc, il a pris un violon, une clarinette, un basson, un cornet à piston, un trombone, une contrebasse et des percussions. Et puis, il fallait qu'il y ait peu de musiciens parce que le but, c'était de tourner un peu dans toutes les villes de Suisse. Donc, il fallait se déplacer facilement. Donc, tu pouvais pas, au niveau logistique aussi, déplacer un grand orchestre. Donc, il fallait un espèce d'orchestre miniature, ce qu'on est, et qu'il fallait rentrer dans les petites salles.
Oui.
On pouvait pas... Il jouait pas que dans des grands théâtres. Il jouait surtout dans des petits endroits, un peu comme à la manière d'un cabaret, en fait. Donc
c'est une instrumentation un peu forcée, finalement.
Alors forcé, on va peut-être pas dire
pas le terme forcé, mais
voilà,
de fortune.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est et on fait comme après pendant la Seconde Guerre mondiale, des compositeurs qui étaient internés dans les camps écrivaient la musique avec les musiciens qui avaient autour d'eux. Donc par exemple, on sait que le Quatuor pour la fin du temps de Messiaen, il a été écrit alors que Messiaen était prisonnier, et donc il a écrit pour cette formation parce que c'est les musiciens qu'il avait à sa disposition, en fait. Il y a pas mal de musiques comme ça qui ont été écrites sous une contrainte, enfin en tout cas avec un peu les moyens du bord.
Moyens du bord, ouais. Donc ça explique peut-être aussi pourquoi par la suite Stravinsky va, entre guillemets, améliorer un peu cette œuvre-là, parce que j'ai cru comprendre que l'histoire du soldat va marquer vraiment ce tournant dans la composition de Stravinsky et qui part sur un style un peu plus différent derrière, quoi.
Exactement. C'est-à-dire qu'au début de sa carrière, Stravinsky, il était vu comme un grand novateur. C'était ses premières œuvres, ses premières grandes œuvres, c'est les qu'il a écrit pour les ballets russes. et qui était une compagnie de ballet russe qui venait à Paris faire des tournées et on lui commandait des musiques. Donc il y avait L'Oiseau de Feu, Petrouchka, Le Sacre du Printemps qui sont des œuvres, surtout Le Sacre du Printemps, qui ont fait scandale et par la modernité de l'écriture de Stravinsky. Et peut-être que après cette période très novatrice et très avant-gardiste, il va plus vers quelque chose de à la fin de sa vie, Stravinsky, il écrivait de manière de plus en plus ce qu'on appelle néoclassique, à la manière des classiques, mais avec sa vision, avec son bagage d'écriture et théorique moderne, mais à la manière de classique. Voilà.
On parle de nouvelle scène française, là, pour parler des auteurs français actuels. Donc, à la période de Stravinsky, on aurait pu l'appeler la nouvelle scène classique, quoi.
Ouais.
De l'époque. C'était un peu ça. En tout cas, il a marqué pas mal de musiciens, dont un en particulier que je voudrais que l'on écoute maintenant. C'est l'un des plus grands rockers, et en tout cas, il a plus de 60 albums. Il s'appelle Frank Zappa et il vouait un véritable culte à Stravinsky. Voici une œuvre qu'il a dédiée entièrement à Stravinsky. Frank Zappa, In El Gada. Sur CFM Radio, un titre de Frank Zappa intitulé In El Gada, un titre qu'il dédie à l'une de ses influences majeures, en la personne d'Igor Stravinsky. Un titre aussi qui illustre ô combien la musique classique a et influence toujours de nombreux rockers. On peut dire la même chose pour le hip-hop. Vous reprenez tous les premiers albums du Wu-Tang Clan, et bien vous retrouvez pas mal d'influences et de références à la musique classique. On en parle aujourd'hui de Stravinsky avec nos deux invités, Mathilde Le Carpentier qui est comédienne et Thomas Quinquennel de l'ensemble Ataïri seront sur scène tout à l'heure au château de Mérag à Castelnau de Montmirail pour la soirée de clôture de la 51e édition du festival de Cordes sur ciel. Alors Thomas, déjà j'ai constaté que Stravinsky n'est pas dans le répertoire, on va dire, habituel de l'ensemble Ataïr. Vous l'avez travaillé exprès pour l'occasion ou quoi?
Tout à fait. Okay. Tout à fait. En fait, l'ensemble Ataïr, on est un ensemble de musique de chambre qu'on a créé avec Aude Marchand, qui est la violoniste, qui jouera ce soir. Dans le but de faire de la musique de chambre, de sortir un peu de nos cadres de musique classique, d'orchestre. On est tous des musiciens d'orchestre dans l'ensemble. C'était un peu de sortir de ce contexte-là, donc de jouer de la musique de chambre qui mêlait des instruments à cordes, comme le violon, et des instruments à vent, comme le basson, la clarinette, etc. Donc voilà, c'est pas dans nos œuvres habituelles, effectivement, c'est pas dans le répertoire qu'on s'était dit aborder en premier lieu, mais en fait, quand Antoine Pecker, le directeur du festival, nous a proposé de venir jouer, vu le thème, la thématique du festival, nous, il n'y avait pas vraiment de programme qui collait, mais il nous a dit, mais en fait, ce qui colle, c'est l'histoire du soldat. Est-ce que vous voulez faire l'histoire du soldat? Et en fait, Alors ça sort un tout petit peu de ce qu'on pourrait avoir envie de faire à la base. Néanmoins, ça répond au cahier des charges de l'ensemble, à savoir jouer dans un endroit qui est pas forcément un lieu qui accueille de la musique, à savoir la cour d'un château, enfin devant un château et pas à l'intérieur. Et en plus, on mêle toujours les cordes et les vents, puisqu'il y a un violon, une contrebasse et des instruments avant. Il y a même en plus un instrument à percussion, enfin des percussions.
Des percussions, ouais. Alors, est-ce que musicalement, ça change, on va dire, drastiquement de ce que vous faites d'habitude? Je vais citer les plus connus, Mozart ou Beethoven, quand vous jouez du Stravinsky.
Non, ça change pas. Ce qui pourrait changer, c'est que la musique de chambre, du coup, c'est les musiciens qui s'autogèrent. Et c'est vrai que en fait, Stravinsky, enfin, en tout cas, l'histoire du soldat, originalement, il me semble, peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, on le donne souvent dirigé par un chef d'orchestre.
Oui.
C'est souvent dirigé par un chef d'orchestre, vraiment un peu comme un petit opéra, avec les musiciens dans la fosse et les comédiens, parce que normalement, il y a plusieurs comédiens. Peut-être, Mathilde, tu pourras.
Ouais.
Parler de ça après.
On va revenir dessus parce que
il y a plusieurs comédiens et voilà, les comédiens sur scène et le chef dirige les musiciens et éventuellement aide les comédiens à partir parce que les comédiens doivent dire du texte en musique, ce qui est très difficile. Et voilà. Et nous, on fait une version musique de chambre, donc sans chef d'orchestre et avec une seule comédienne. Et on s'autogère. Donc,
une adaptation.
De temps
quoi.
En temps, on sort de notre rôle de musicien pour aller écouter, pour voir comment ça marche parce qu'il y a personne qui va nous. Mais on est très content.
C'est excellent ça comme expérience. Et pour toi, Mathilde, est-ce que c'est une expérience là pour en tant que comédienne de jouer, de parler avec directement comme ça les musiciens autour de toi, derrière toi, devant toi?
Ah oui, c'est une expérience, c'est une grande première. Oui, effectivement, il y a quelques nouveautés, quelques difficultés, mais ça se fait de façon joyeuse, parce que comme le disait Thomas, on s'aide. Mmh. Donc moi, je suis pas du tout musicienne, et je dois parfois dans l'œuvre parler en rythme.
Ça change de ce que tu as l'habitude de faire, comme je veux dire, une pièce de théâtre standard.
Ça change parce que, alors, il y a de la rigueur, bien évidemment, au théâtre, mais quelque part, je peux être plus libre. Mm-hmm. Là, il y a la musique.
Il faut coller.
Donc, il faut être sur la musique. Mais les musiciens me jettent un regard. Ah, allez, hop, c'est à toi. Voilà. Et après, il y a la deuxième. Chose, mais qui est hyper intéressant, je trouve, à faire quand on est comédien, c'est que je dois prendre en charge, d'une part, la partition du lecteur. Donc, j'ai mon texte en main, puisque je respecte l'œuvre telle qu'elle a été écrite.
D'accord.
Et puis, je sors de ce rôle-là pour interpréter aussi les deux autres rôles.
Oui, parce qu'il y en a trois. Hein.
Voilà.
Il y a trois rôles dans
un rôle. Il y en a trois, et ça a été vraiment écrit comme ça pour un lecteur, un diable et un soldat. Donc, un rôle lu et deux rôles joués. Et donc, je dois jongler avec ça. Mais c'est une première, mais c'est joyeux.
Allez, Mathilde, un en trois, quoi, finalement, ou trois en un, finalement, pour cette histoire du soldat. Il faut aussi que l'on précise que la musique est d'Igor Stravinsky, mais le texte est de Charles Ferdinand Ramu. Voilà. Est-ce que ce texte est un peu particulier aussi, Mathilde, sur le fond et la forme, sachant que cette œuvre date de 1917-1918?
Oui, 1918, oui. Moi, j'ai apprécié l'œuvre. Donc évidemment, c'est construit de façon étrange pour moi au début, puisque une fois de plus, il y a la musique. Mais après, quand on observe, c'est versifié, ça rime. Donc le texte en lui-même est rythmé. J'imagine, écrit vraiment comme ça, parce qu'à la base, Stravinsky avait demandé à Ramu d'écrire de la musique sur un conte déjà existant. Et Ramu a dit non, on va faire quelque chose ensemble tous les deux. Mmh. On va écrire une pièce de théâtre et une œuvre musicale, les deux en même temps, dans le but, comme le disait Thomas, d'aller jouer après, soit dans des petites salles, soit dans des auberges, par exemple, puisque forcément, fin de la guerre, il n'y avait plus beaucoup de salles. Elles avaient été détruites. Et donc, l'œuvre a vraiment, je crois, été écrite comme ça, versifiée, ça rime. Et parfois, par exemple, le lecteur, quand on lit sa partition, on se dit « Tiens, mais c'est étrange, c'est le soldat qui parle. » Mais ça doit quand même être lu. C'est un discours, il y a du discours direct et indirect pour un même personnage.
Bon, on découvrira tout ça tout à l'heure, c'est à 20h30 au château de Mérague, à Castelnau de Montmirail. Voici un tout petit extrait de la musique de cette œuvre, L'histoire du soldat de Stravinsky, et j'ai choisi là la marche royale. La marche royale de l'histoire du soldat, une œuvre d'Igor Stravinsky avec trois personnages qui seront tous interprétés tout à l'heure par Mathilde Le Carpentier. Thomas, s'il n'y a que trois comédiens, moi j'ai l'impression que chaque instrument aussi est un personnage là. Parce que quand on écoute la musique, on a l'impression que chaque instrument parle en fait. Moi c'est l'impression que j'ai.
Ouais, carrément, chaque instrument parle et chaque instrument illustre aussi... Enfin, je pense qu'ils ont... Ouais, je suis d'accord avec Mathilde, ils ont vraiment écrit Ramu et Stravinsky la pièce ensemble.
Ensemble, donc, ouais.
Stravinsky, il fait en sorte aussi que les instruments et des thèmes qui collent. Bah, on sait qu'il y a un thème du diable, enfin, voilà, donc il identifie aussi certaines thématiques, pas forcément un instrument en particulier, parce que le thème du diable, il peut être repris à plusieurs instruments, au violon, internet, etc. Mais en tout cas, il identifie musicalement les personnages. Donc ouais, il y a une vraie relation.
Une vraie relation, ouais. Bon, parlons quelques minutes de l'ensemble Ataïr, que tu as créé avec Aude Marchand, c'était en 2019, je crois.
Exact.
Donc j'imagine que vous avez eu plein de temps pour répéter, du coup, parce que créer un groupe en 2019...
On a eu plein de temps pour répéter. Alors la genèse de l'ensemble, c'est nous, Aude et moi, sommes musiciens d'orchestre, comme je disais tout à l'heure, et on avait envie de faire la musique d'une autre manière,
différemment,
ouais. dans un autre cadre, avec des gens qu'on a choisis, parce que dans les orchestres, on est recruté par d'autres gens, c'est pas nous qui décidons des gens
avec qui
de nos voisins, ouais, quoi, ouais, comme, ouais. Dans un boulot, finalement, ouais. C'est pas toi qui recrute tes collègues.
C'est ça.
Et là, on avait envie de choisir les gens avec qui on voulait jouer. Et voilà, après plusieurs péripéties, des musiciens qui viennent et qui ont des problèmes de santé ou d'autres projets professionnels et tout, ça a mis du temps à se mettre en place. On a fait nos premiers concerts finalement que l'été dernier. Et voilà, et on est ensemble à géométrie variable, donc on peut faire, voilà, la base, ce qui nous a réunis, c'est le septuor de Beethoven, un septuor avec des instruments à cordes et des instruments avant, une sorte de symphonie miniature aussi, là, c'est marrant. Et voilà, et après, on a essayé de voir tout le répertoire qui existait autour
avec
cet effectif, ouais. Alors avec un instrument en plus ou en moins, parce qu'on tombe pas forcément tout pile à chaque fois, mais même s'il y a quelques pièces. Et puis voilà, après, au gré des projets aussi, bah là, par exemple, Antoine qui nous a proposé de venir à cordes, voilà, on s'est dit, bon, bah vas-y, on se lance dans l'histoire du soldat, on fait aussi de l'opéra, mais avec un genre d'orchestre miniature avec notre ensemble. Au gré des demandes et des discussions, ça évolue aussi. On a nos envies qui sont un chemin, et après les propositions et les discussions avec les programmateurs et les directeurs de salles et de festivals qui font que ça évolue aussi et que ça prend un chemin qu'on n'attendait pas forcément, mais qui est super.
Ils sont polymorphes, et c'est comme ça aussi qu'ils se créent, ils se suprennent aussi eux-mêmes, j'imagine, et je pense. Alors toi, Thomas, tu es au basson, ouais. Aude Marchand et au violon. Il y a qui d'autre et qui fait quoi dans le groupe?
Alors là, dans l'histoire du soldat, donc Aude est au violon. À la clarinette, il y aura Benjamin Christ. Est-ce que tu veux que je développe? Non, je.
Moi, non, juste.
Voilà, ouais, non, ouais, Benjamin Christ, moi, au basson, au cornet à piston. Le cornet à piston, c'est une trompette un peu plus ramassée, un peu plus tassée, qui a un son un petit peu plus doux que la trompette. Mm-hmm. Donc, ça s'appelle le cornet à piston, c'est Raphaël Rossetto. Et au trombone, c'est Benjamin Gallon. Et à la contrebasse, Boris Trouchot. Et aux percussions, Rodolphe Terry.
Très voilà. Bien. Donc là, c'est vraiment une orchestration que vous avez créée et qui n'est pas courante en musique de chambre. Comme là, le corps, la contrebasse, clarinette, basson. Oui, c'est ensemble, là, parce qu'on est plus habitué au violon, violoncelle, piano. Voilà, quoi.
Comme je te dis, c'est, ouais. C'est ce que je disais au début de notre entretien, c'est qu'en fait, c'est les instruments, certainement, qu'il avait à disposition.
Oui.
Et du coup, il a écrit pour cela, en fait.
Mm-hmm.
Alors, peut-être qu'il voulait vraiment absolument un violon, parce que le violon a une place un peu importante dans l'histoire, donc il voulait absolument un violon, donc ils ont peut-être cherché spécifiquement un violon, mais sinon...
Le seul violoniste du quartier était voilà, recruté directement.
Mais sinon, les instruments, il a un petit peu pris ce qu'il avait, et puis il a dit, bon, on y va, quoi.
Bon, parmi tous les instruments là que l'on a cités, il y a quand même un instrument qui sort un peu du lot, et ça tombe bien, c'est celui que toi tu joues, c'est le basson, qu'on n'a pas l'habitude de croiser ici ou là, hein, ce fameux basson, même si on l'entend dans pas mal d'histoires hein, comme ça, un peu musicales. J'aimerais que tu nous décrives un peu à quoi ressemble ton instrument. Je te fais ambassadeur du basson pour les minutes qui viennent. Là.
J'adore ce rôle, je m'y emploie toute l'année, donc je vais essayer de le faire ici que pour les oreilles des auditeurs et pas pour leurs yeux. Le basson, c'est un instrument à vent, donc dans lequel on souffle. Et plus spécifiquement, il fait partie donc de la famille des vents, mais de la famille des bois. Parce que dans la famille des instruments à vent, il y a deux catégories. Les cuivres, dont font partie la trompette et le trombone, par exemple. Et les bois, dont font partie la clarinette, le hautbois, la flûte et donc le basson. Mais le basson, c'est l'instrument grave de la famille des bois. En termes de hauteur de son, donc c'est un instrument à vent, mais on se rapproche plus de la hauteur de son d'un violoncelle. Donc c'est plutôt un instrument grave qui sert donc dans l'orchestre plutôt d'accompagnement ou alors de liant entre ce qui va se passer dans les basses et les thèmes qui sont joués au violon ou en tout cas aux instruments aigus. Donc voilà, c'est un instrument qui fait aussi on le pose par terre, il fait à peu près 1m20, 1m30, mais c'est pas un tuyau tout droit, c'est-à-dire que c'est un tuyau qu'on a coudé, parce que si je le dépliais entièrement, il ferait plus 1m30, il ferait plutôt 2m50, donc on a décidé de le plier à la base, ça fait un petit coude, pour pouvoir le jouer tout simplement. Et dessus, donc c'est un instrument en bois, un tuyau percé de trous, et les trous sont bouchés ou à l'aide directement des doigts, ou alors on a des petites clés, des petites spatules qui sont proches de nos doigts et qui nous permettent d'atteindre des trous qui sont trop loin pour directement les actionner, les ouvrir et les boucher avec les doigts. En gros.
On écoute quelques secondes de basson maintenant sur CFM Radio et c'est le caprice de Paganini qui est joué par Théo Plate. N'y attendiez pas hein, d'écouter un solo de basson comme ça un vendredi sur CFM sur CFM Radio. Et j'ai vu aussi dans les projets de l'ensemble Bataille, là dans quelques jours, vous jouez à Limoges au festival 1001 notes et vous allez accompagner un chanteur plutôt pop, teamed up, comme
exact.
Quoi
Mais ouais, carrément, on accompagne teamed up, tu vois, ça fait partie des projets quand Aude a contacté le festival pour proposer... Des programmes. Le directeur trouvait l'ensemble chouette, mais avait envie de nous proposer quelque chose de différent de juste un programme de concert de musique classique. C'est un peu sa volonté d'ailleurs maintenant dans ce festival de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc, il nous a dit d'accord, vous pourrez jouer on va jouer le Septuor de Beethoven dont je parlais tout à l'heure, mais j'ai envie que vous travailliez aussi avec un artiste d'un autre univers, donc teamed up, voilà, plutôt chanson française. Un peu cette nouvelle génération de chanteurs, voilà. Et en fait, on a été mis en contact avec lui, ça s'est super bien passé. Et donc, en fait, on joue le concert, elle se passe en trois temps. On commence par jouer de la musique classique, des extraits du Septuor de Beethoven, qu'on va enchaîner, avec lequel on va amener quelques chansons où on va l'accompagner lui. Ses chansons à lui, avec un arrangement qui a été fait spécialement pour l'ensemble Altaïr. Ensuite, lui va continuer son set au piano, avec sa voix, et on revient à la fin pour rejouer de nouveau avec lui. Voilà, un espèce de mélange entre... et puis, c'est aussi histoire d'amener des gens qui écoutent de la musique classique à écouter autre chose, et l'inverse.
Et l'inverse aussi.
Que la musique classique, la musique classique, elle est accessible à tout le monde. Tout à l'heure, tu nous écoutais Frank Zappa, qui cite Igor Stravinsky dans sa musique. Et d'ailleurs, ce qu'il cite, c'est un solo de basson.
D'accord.
C'est le solo du début du Sacre du Printemps.
D'accord.
Voilà. Donc,
le basson.
Hein. Et voilà, le basson, il y en a partout, en fait, finalement. Non, mais voilà, le but aussi, et ce qu'on aime faire, et ça nous a tout de suite parlé avec Aude quand on nous a proposé de faire ce mélange de disciplines, et aussi de travailler avec une comédienne comme on fait là,
ben
avec
oui.
Mathilde pendant l'histoire de cela. C'est qu'on ne fait pas que de la musique, on doit aussi travailler et interagir avec du théâtre, et du coup, ça nous oblige à travailler différemment, à écouter différemment, à interagir différemment.
Eh bien, rendez-vous tout à l'heure à 20h30 au château de Meyrague pour l'histoire du soldat, une œuvre d'Igor Stravinsky, en musique par l'ensemble Altaïr, en théâtre par Mathilde Le Carpentier qui était avec nous aujourd'hui sur CFM Radio. Et puis il y aura deux projections en marge de votre concert. Hein. Il y a un film pour lequel Elena Rykova, la compositrice en résidence, a composé la musique, et puis un film de documentaire qui retrace cette œuvre d'Igor Stravinsky, L'histoire du soldat, et c'est un film de Michel Van Zelle. Merci beaucoup à tous les deux, Mathilde Le Carpentier, Thomas Quinquennel de l'ensemble Altaïr, d'être venus dans le studio de CFM Radio, et puis très bon festival et très bon concert à vous tout à l'heure.
Merci.
Foi uma quarta-feira.
Et on se quitte en musique avec un peu de bossa nova. C'est le groupe Milo en concert ce soir à la Parroquiale pour la première édition du festival Les Pieds dans le Pré. Ça démarre à 18h30 au lieu dit de la Mafreusier, avec un spectacle de jongle qui sera suivi par deux concerts. Celui de Sophie les Bas Bleus, c'est plutôt de la musique pop-rock, et puis donc Milo et sa bossa nova. On écoute Bagno de Foias avant les infos.
Oxalá quem te mandou tanta volta pra nenhuma resposta, 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 nenhuma resposta, mas punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para rai, bete branca, sapês, abre caminho, patchouli. Para rai, bete branca, sapês, abre caminho, patchouli. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, ei, Oxalá quem te mandou. Oxalá quem guia, dolalaya. Oxalá quem te mandou, ei, ai, ai. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta.
nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para Rai, Beti Branca, Açapês, abre caminho, Patchouli. Para Rai, Beti Branca, Açapês, abre caminho, Patchouli. Para Rai, para afastar o mal, para afastar o inveja, para atrair o amor.